Bienvenue pour le 6e épisode de Déclencheur, le podcast qui parle photo. 3 segments dans cet épisode. L'édito, qui sera consacré à une réflexion sur les aspects moraux du partage des photos. Le segment principal, qui sera consacré au cadrage, à la composition et à l'esthétique, c'est-à-dire un segment qui va répondre à la question que vous avez posée dans le sondage de l'épisode 4. Et enfin, le 3e segment, avec vos commentaires et vos réactions. Notez que pour cet épisode, un complément visuel est disponible. Il a été posté dans le fil RSS il y a quelques jours, donc si vous êtes abonné, vous avez dû le recevoir automatiquement. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez aller le télécharger sur le site www.déclencheur.com et vous pouvez en profiter pour vous abonner, pour être certain de recevoir à l'avenir tous les épisodes et leurs compléments visuels. C'est sur le même site, www.déclencheur.com, que vous pourrez poster un commentaire, une réaction ou retrouver les liens qui seront présentés dans l'épisode. Premier segment donc. Pour démarrer ce premier segment, je voudrais vous pointer vers un tutoriel que je viens de publier sur IBM Developer Works, qui est consacré en fait à la réalisation d'un podcast. J'en parle parce que certains d'entre vous m'avaient demandé justement de consacrer un peu de temps à expliquer la démarche de création du podcast. Et bien donc tout ça se trouve maintenant sur le tutoriel IBM. Vous trouverez le lien sur www.déclencheur.com. Et j'ai également été podcasté par le podcast IBM pour présenter le tutoriel. Je mettrai également le lien sur le site. L'édito. Édito qui est consacré à une réflexion, à ouvrir en fait une question sur la pertinence de partager nos photos comme nous sommes en train de le faire sur Internet et en particulier dans quelle mesure nous ne sommes pas en train de perdre une partie de notre vie privée en faisant ça. C'est une question que j'ai entendue formuler de différentes manières et pour être franc, je n'ai pas encore entendu une personne donnant une réponse tout à fait satisfaisante. Je ne prétends d'ailleurs pas apporter une réponse satisfaisante. Mais je crois qu'il est intéressant que dans la communauté de la photo, mais on en parle et qu'on cherche ensemble une réponse. Et c'est pour ça que je le mets sur la table, pour avoir votre avis, pour qu'on ait l'occasion d'échanger à ce sujet-là sur Déclencheur. Et la question est revenue pour moi à l'avant-scène en entendant parler de ce film que Carl Zero vient de sortir, Dans la peau de Jacques Chirac. En gros, le film apparemment a été construit en collant les uns derrière les autres des séquences, des extraits de différentes émissions télévisées auxquelles Jacques Chirac a participé. Peu importe à la limite le film, mais un des points qui m'a frappé, c'est un des commentaires par un des spectateurs à la sortie du film qui disait « Je plains vraiment ces hommes politiques, je plains ces personnalités publiques parce qu'on va pouvoir 15 ans, 20 ans, 30 ans plus tard aller rechercher des morceaux d'activités auxquelles ils ont participé et les représenter comme ça, peut-être hors contexte. » Quand on regarde Flickr, quand on regarde YouTube, qui fait un peu le même service mais pour de la vidéo, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'un certain nombre des documents qui sont disponibles sur ces services ne devraient peut-être pas être partagés de façon large ou s'ils le sont, ne devraient certainement pas prétendre à la durée. Or, une fois que l'image est disponible sur Internet, elle y reste. On ne sait pas vraiment l'enlever, on ne sait pas la retirer. Et donc, quelque part, il y a un effet un petit peu insidieux. Et je me demande, et je répète, j'ai pas la réponse, qu'est-ce qui va se passer quand tout le monde peut aller fouiller dans le passé des autres, et non pas seulement sur du texte, une discussion, mais en prenant des images, des photos, des vidéos. Parce que le côté insidieux de ce partage, en final, c'est que ces images ou ces vidéos, une fois qu'elles sont disponibles sur Internet, elles y restent. Alors quand on sait que, selon une étude Mediapro, 38% des jeunes Belges et 25% des jeunes Français ont un blog, sur lequel généralement ils partagent force photos, etc., on peut se demander ce qui se passera quand dans 10 ans, dans 15 ans, les employeurs iront puiser là-dedans et ressortiront les photos d'enfance, les vidéos d'enfance, les blagues de potage. Évidemment, en balance à ça, il y a un effet de lissage. Il est clair que quand tout le monde a sa bobine sur Flickr, tout le monde a ses bêtises de jeunesse sur Skyblock, a priori, c'est plus un critère d'exclusion, c'est plus un critère de sélection. Mais la question reste, et c'est une question à laquelle je deviens de plus en plus sensible, quand je fais des photos d'un événement et que je poste ces photos sur Internet, eh bien je crée une trace, et cette trace, j'en perds contrôle. Alors je vais être franc, je ne sais pas si je dois finir cet édito sur une note positive, sur une note négative ou sur une note neutre. Je crois qu'il est bon de se poser la question. Je ne veux pas vous imposer ma réponse, d'abord parce que je n'ai pas encore vraiment la réponse, mais je crois que c'est bon que vous y réfléchissiez vous aussi de votre côté, et puis peut-être partager le résultat de vos réflexions sur Déclencheur, pour qu'on puisse un petit peu nourrir le débat autour de cette question. Deuxième segment donc, sans transition, qui est consacré au cadrage et à la composition. Ceci est le 6e épisode de Déclencheur, et donc 6 épisodes de Déclencheur, comme on se retrouve à peu près tous les 15 jours, ça veut dire que ça va faire 3 mois, déjà, que vous m'invitez chez vous pour parler photo. Ce 3e mois a vraiment été le mois des interviews, puisqu'on a, sur l'épisode 5, eu l'interview de Pierre-Yves Dalnogard, qui nous a présenté son parcours partant du numérique vers l'argentique, un parcours très original, très intéressant. Et pour cet épisode, On va avoir également une interview avec Nicolas Esposito, qui va nous parler cadrage, composition et esthétique. Vous vous souviendrez que dans l'épisode 4, j'ai organisé un sondage pour déterminer les sujets qui vous intéressaient le plus. Et sans l'ombre d'un doute, le grand gagnant était cadrage, composition. Vous voulez des épisodes, des discussions sur ce sujet-là. Par ailleurs, j'avais pris contact avec Nicolas Esposito, qui enseigne à l'Université technologique de Compiègne et qui est également l'animateur du podcast Rendez-vous Création. Et Nicolas avait accepté une interview sur un thème consacré à l'esthétique. Suite à votre demande cadrage-composition, on a échangé quelques messages avec Nicolas pour cadrer l'interview de façon à répondre au mieux à votre demande. Et la réponse qu'on a apportée, c'est pour Nicolas de vous résumer son cours sur l'esthétique en une petite vingtaine de minutes. Donc l'exercice est périlleux, puisque en 20 minutes, forcément, le résultat est assez dense. Mais je crois que Nicolas s'en est vraiment tiré de main de maître. Et je crois que vous allez trouver cet épisode une très belle réponse à la question que vous avez posée. Nicolas a poussé la gentillesse jusqu'à me fournir la matière pour construire un complément visuel. Avant de lancer l'interview elle-même, je voudrais faire deux commentaires. Nicolas vous le dira mieux que moi, et il le dit pendant l'interview, mais c'est tellement important que ça mérite d'être souligné. Vous allez entendre que l'interview est formulée et organisée autour de règles. Alors a priori, règles, c'est un petit peu mauvaise presse. On se dit des règles, ça va être rébarbatif. On se dit, bon, la photo, c'est créatif, donc moi, j'ai pas besoin de règles puisque je suis dans un processus créatif. Vous verrez que ce qu'on appelle des règles, en fait, c'est l'expression d'éléments de notre culture. Et donc, loin d'être des règles qui vont nous contraindre, qui vont nous emprisonner, c'est des règles qui vont éclairer le travail qu'on fait. Et je crois vraiment quand on découvre les règles d'esthétique, et plus on les découvre, plus on a vraiment un effet « Ah oui, d'accord, maintenant je comprends pourquoi j'ai eu tel résultat et je comprends comment la prochaine fois je pourrais améliorer ma photo. » Donc il ne s'agit absolument pas de règles dans un sens restrictif, mais bien de règles dans un sens créatif. Deuxièmement, vous verrez que le sujet est assez dense. Nicolas nous fait vraiment un survol de des grands points de l'esthétique en photo, et donc le sujet va être dense. Vous n'avez pas besoin de retenir et d'appliquer absolument tous les éléments dont Nicolas va parler. Je crois que si vous attachez seulement à quelques-uns des points que Nicolas présente, vous allez vraiment pouvoir travailler sur vos photos d'une façon tout à fait différente et très intéressante. Bonjour Nicolas.
Bonjour Benoît.
Je suis avec Nicolas Esposito pour la deuxième interview de Déclencheur. Nicolas, merci d'avoir accepté l'invitation.
C'est normal, c'est un plaisir Benoît.
Alors Nicolas en fait est enseignant à l'Université technologique de Compiègne où il donne un cours sur la chaîne numérique avec la photographie qui sert vraiment de fil conducteur dans le cours. Et il s'occupe également de Rendez-vous Création. Tu peux nous parler un petit peu de Rendez-vous Création ?
Alors Rendez-vous Création, c'est une association qui a pour but de promouvoir la création numérique. Elle s'architecture principalement autour d'un site web, www.rendezvouscreation.org. Chaque visiteur peut découvrir de nombreuses créations numériques, des photos, de la musique, des courts-métrages, etc. Il peut être guidé pour ses propres créations et puis les publier sur le site. Il y a un moyen de communication important de Rendez-vous Création, c'est son podcast qui va à la rencontre de créateurs et à chaque fois, que ce soit pour un photographe, pour un DJ, pour un réalisateur, etc., on s'intéresse à la démarche de création avec la préparation, la réalisation et la publication.
Nicolas, aujourd'hui, on va plutôt parler d'esthétique. En fait, pourquoi il y a besoin de s'intéresser à l'esthétique ? À quoi ça sert du point de vue du photographe ?
Donc, chacun est sensibilisé à l'image d'une manière différente. Néanmoins, il y a des points communs qui sont liés à notre culture. En fait, au cours de l'histoire, au gré des différents mouvements artistiques, des règles de composition se sont constituées. Donc, ces règles sont liées à notre culture et on peut dire qu'elles forment un langage avec lequel on peut s'exprimer. On peut les suivre directement ou les prendre à contre-pied. On pourrait penser qu'elles limitent la création, mais si on les ignore, on risque de ne pas être compris. Du coup, on peut avoir différentes attitudes face à ces règles. Pour être bien compris, on va les utiliser. Et si le résultat reste personnel, on ne tombera pas dans le formatage. À l'opposé, on peut essayer d'ignorer ces règles, par exemple dans une phase exploratoire, ou bien si on souhaite révolutionner un domaine artistique. Je dis essayer parce que comme ces règles sont liées à notre culture, ça va être très difficile de s'en écarter totalement en fait.
Tu peux nous expliquer un petit peu les principales règles ?
Oui, on peut faire un petit tour des principales règles. Je peux en tout cas en donner mon interprétation, sachant donc que ça peut varier d'une personne à une autre en fonction de sa culture, de sa sensibilité, etc. Alors on peut commencer par la règle la plus connue, la règle des tiers. Déjà, pourquoi cette règle ? Parce qu'en centrant un sujet, on va couper l'espace en deux. Du coup, on utilise volontiers des lignes horizontales et verticales qui sont placées à un tiers et à deux tiers de l'image. On utilise aussi leurs croisements, qu'on appelle les points forts. Placer un sujet sur une ligne de tiers, ou plus précisément sur un point fort, ça va permettre de ne pas couper l'espace en deux, de présenter l'arrière-plan de manière plus évidente, et donc de mettre davantage le sujet en valeur par le biais de son environnement.
Donc ça veut dire que le collimateur est souvent plein au centre du viseur, on vise bien au centre et puis on fait la photo, c'est pas la bonne technique.
Il y a dans une image 4 points forts, on ne sait pas à l'avance lequel on va utiliser. Donc c'est vrai que de faire la mise au point au milieu, après avec un tout petit décalage, on peut replacer le sujet sur un des points forts.
Et donc cette règle doit s'appliquer systématiquement pour toutes les photos ?
Non, évidemment, c'est un petit peu comme pour toutes les règles qui constituent donc un langage photographique. On peut les prendre dans le sens dans lequel elles sont énoncées, on peut les prendre dans l'autre sens, à l'opposé. Et ça va vouloir dire quelque chose, en l'occurrence, ça va vouloir dire « je coupe mon espace en deux ». Ça peut être très intéressant, par exemple, pour souligner une symétrie. On va avoir la même chose à droite, la même chose à gauche. Ça peut être aussi pour couper une scène en deux, vraiment volontairement, et montrer que d'un côté, on a une ambiance, d'un autre côté, on a une autre ambiance. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que la règle a du sens. Si on la néglige, on peut dire des choses sans le vouloir.
La règle des tiers sert à mettre en valeur le sujet. Est-ce qu'il y a d'autres règles pour mettre en valeur le sujet ?
Oui, alors évidemment, on commence souvent par la règle des tiers, mais il y a deux, trois petits trucs qui permettent de mettre encore plus le sujet en valeur. On peut s'intéresser par exemple au regard, et souvent on va faire en sorte que le regard se porte plus vers le centre de l'image que vers l'extérieur. Qu'est-ce que ça peut donner dans le sens inverse ? Si on a le regard qui va plutôt vers l'extérieur de la photo, ça a comme signification plutôt une absence. Ça peut être très intéressant dans certains cas, mais par défaut, si on veut mettre son sujet en valeur, on va avoir plutôt un regard vers le centre de la photo. Pareil pour le mouvement. Si on a un mouvement entrant dans la photo, par exemple pour une voiture, un vélo ou n'importe quel objet qui se déplace, on va encore avoir une sensation de présence, d'arrivée. À l'inverse, si le mouvement sort de l'image, à ce moment-là, on va plutôt indiquer le départ.
Tu peux nous donner quelques exemples pratiques ?
Alors un exemple pour un portrait tout simple au format horizontal, on va avoir le visage sur un point fort supérieur de l'image, par exemple en haut à gauche, et sur le point fort en haut à droite, on va donc avoir l'environnement, ça peut être des arbres. Si le sujet regarde vers l'extérieur de la photo, on va avoir une sensation d'absence, le sujet ne va pas regarder dans la direction de cet environnement. Au contraire, si le sujet regarde de la gauche vers la droite, donc du point fort gauche vers le point fort droit, on va avoir une sensation de présence, qu'on est bien en présence du sujet.
Ok, donc ça c'est intéressant sur la manière dont on place le sujet, donc ça nous amène à parler aussi de comment on va cadrer la photo. Est-ce qu'il y a des règles concernant le cadrage ?
Oui, si on voulait dire ça en deux mots, si on voulait caricaturer un petit peu cette règle, on dirait plutôt serré. Plutôt serré, c'est interprété dans le sens où si on ne cadre pas très serré sur un sujet, on va avoir beaucoup d'espace autour et on va avoir des zones de l'image où éventuellement on va s'ennuyer. Par exemple, on peut avoir beaucoup d'espace sur le sol où on va avoir une texture qui peut être certes intéressante mais qui ne va pas être le sujet de l'image. Au contraire, on ne va pas non plus serrer très fortement sur le sujet pour plusieurs raisons, donc des raisons géométriques dont on pourra parler juste après, mais aussi pour ne pas avoir tout simplement une impression d'étouffement.
Est-ce qu'il n'y a pas contradiction entre le cadrage et la règle des tiers ?
Pour chacune des règles, on peut prendre des petites libertés, c'est-à-dire qu'on va pouvoir cadrer, serrer plutôt d'un côté et laisser de l'espace de l'autre.
Ça veut dire aussi qu'on n'est pas obligé d'appliquer toutes les règles pour toutes les images ?
Dès le moment où on applique quelques règles, ça conditionne déjà énormément le cadrage, la composition. Ça ferme le nombre de choix qui nous reste à faire.
Tout à l'heure, quand on parlait de cadrage et de cadrage serré, tu parlais aussi de géométrie.
Oui, alors autour de la géométrie, il y a aussi pas mal de règles qui peuvent s'appliquer. Pour revenir sur l'exemple de tout à l'heure, si on va prendre un sujet et cadrer très près de ce sujet, on risque d'avoir ce qu'on appelle des coïncidences géométriques entre le sujet et le cadre. Un exemple très simple, ça peut être un arbre, c'est-à-dire un tronc avec une grosse boule de feuilles au-dessus. Mmh. Si le disque de la grosse boule de feuilles vient se poser sur le bord du cadre, là, il va y avoir une coïncidence géométrique.
Alors, c'est-à-dire que la boule va venir en coïncidence avec le rectangle du cadre.
C'est ça. Ça va mettre en évidence, ça va rendre la présence du cadre inévitable. Souvent, quand on dit on ferme la photo, on va faire en sorte que l'œil ne soit pas attiré par ce cadre, mais plutôt par le sujet qu'on veut mettre en valeur. Soit on cadre plus large pour que ça ne soit pas le cas, soit on coupe complètement l'arbre pour que ça ne soit pas le cas non plus.
Dans ce placement de l'arbre dans la photo, effectivement, on amène à parler de paysage. Et donc, quand on place du paysage, une des questions qu'on se pose toujours, c'est où est-ce que je vais placer mon horizon ? Est-ce qu'il y a des règles par rapport à ça ?
Alors là encore, on revient souvent sur la règle des tiers. Si on peut avoir un horizon sur une ligne horizontale, ça peut être intéressant. Donc la ligne des tiers du bas ou la ligne des tiers du haut. Ce qui est sûr, c'est qu'on va absolument faire en sorte que cet horizon soit droit. Donc s'il est droit, c'est neutre. Par contre, si ça n'est pas droit, c'est-à-dire si c'est un tout petit peu penché à gauche, si c'est un tout petit peu penché à droite, ça fait tout de suite photo ratée parce que ça va être entre deux cas bien précis, le cas où c'est bien droit et le cas où c'est incliné volontairement. Donc, dès le moment où c'est un petit peu incliné, on a l'impression que c'est incliné involontairement, que donc le langage photographique n'est pas maîtrisé.
Donc en fait, ce que tu es aussi en train de dire, c'est que quand on ne respecte pas une règle, entre guillemets, il faut connaître la règle pour aller bien à fond dans l'autre sens.
C'est ça. Et là, en l'occurrence, pour le respect de l'horizon, si on va à l'encontre du respect de l'horizon, on va à fond dans l'autre sens et on incline l'image de manière significative pour que ça soit bien visible. De cette manière-là, on peut dynamiser une action. Par exemple, on a des voitures qui passent, on va incliner la prise de vue pour que l'action soit dynamisée. Si on a des bâtiments qui montent très haut vers le ciel, on peut aussi appliquer une inclinaison pour montrer cette dynamique vers le haut.
Quand on parlait des règles tout à l'heure, tu as dit qu'elles étaient liées à une culture donnée. Est-ce qu'il y a des aspects de la géométrie qui sont spécifiques à la culture européenne ?
Alors, il y en a une en particulier qui est liée à quasiment tous les pays. On lit de gauche à droite et de haut en bas. C'est la lecture d'une image plutôt en forme de Z. Donc, on commence à lire l'image en haut à gauche. Ensuite, on va vers la droite. Ensuite, on descend et finalement, ça forme un Z. Et ce que ça veut dire concrètement, c'est que si on place les éléments importants comme le sujet sur la diagonale du Z, la photo va être lue rapidement. Si on utilise la diagonale inverse, la lecture de l'image va être plus lente. Alors ça peut être un effet recherché. On peut avoir envie de faire une image qui pose plusieurs questions, peut-être un peu difficiles sur le plan visuel. Si on est dans un paysage qu'on voit par exemple une cascade, l'eau va tomber pas tout à fait droite et donc on peut se mettre plutôt à droite de la cascade pour faire une photo verticale et avoir l'eau qui tombe plutôt dans la diagonale du Z.
Tant qu'on en est dans la géométrie, on a parlé tout à l'heure du cadre, qui sont les bords de l'image. Tu as parlé de l'utiliser en horizontal, tu as parlé d'utiliser en portrait. Est-ce qu'il y a d'autres variantes possibles ?
Oui, effectivement, quand on recadre une image, on peut tout à fait penser à d'autres formats que le format 3,5 ou 4 tiers qu'on a sur la plupart des appareils photo. On peut penser au format carré qu'on a sur certains moyens formats, et puis on peut penser évidemment au format panoramique qu'on a aussi sur certains appareils APS, par exemple, ou même certains appareils dédiés aux prises de vue panoramiques.
Puis qu'on peut réaliser par assemblage.
Tout à fait, avec certains logiciels qui le font maintenant de manière automatique. À ce moment-là, il y a deux approches. Soit au moment de la prise de vue, on sait qu'on va recadrer et on compose, on fait la composition de son image directement dans cette visée-là. L'autre possibilité, c'est de recadrer après coup. On se rend compte que finalement, une photo serait mieux en enlevant une partie qui finalement nous ramène sur un carré, ou bien en enlevant le haut, le bas, ou bien les deux, et à ce moment-là, on retombe sur un panoramique. Ce qui marche particulièrement bien en général, c'est de retomber sur des formats que connaît l'œil. Par exemple, pour un panoramique, le format 16/9, 16/9 comme les DVD, comme pas mal de télévisions maintenant. À ce moment-là, il y a aussi des contraintes en termes de composition qui sont différentes, et en général, en panoramique, on va avoir l'opportunité de pouvoir juxtaposer les plans les uns à côté des autres.
Tu parles justement des planches, c'est clairement aussi un élément qui est assez important dans l'esthétique. Est-ce qu'il y a des règles concernant le... D'abord, qu'est-ce que ça veut dire quand on parle des plans en photo ?
Un plan, ça va être tout simplement une zone de l'image dans laquelle les objets vont se trouver à la même distance du point de vue. Donc on va avoir par exemple un premier plan où on aura un feuillage en haut qui sera à quelques mètres, on aura peut-être notre sujet qui sera à une dizaine de mètres, qui représentera le second plan, et puis derrière, à quelques dizaines de mètres, quelques centaines de mètres, quelques kilomètres, une montagne, des arbres, etc., qui représenteront l'arrière-plan. Donc là, sur ce genre d'image très simple, on aurait trois plans bien identifiables. Et donc l'idée sur un plan esthétique, c'est de différencier ces plans pour faciliter la lecture. Pour différencier les plans, principalement, on a deux possibilités. Soit on va jouer sur la profondeur de champ, soit on va juxtaposer ces plans. Juxtaposer ces plans, c'est ce dont je parlais pour un format panoramique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les mettre les uns à côté des autres dans le cadre. Souvent, pour réaliser ce genre de choses, on se déplace et on choisit un point de vue qui nous permet d'obtenir visuellement cette juxtaposition.
Et ça, c'est la juxtaposition qui se met par opposition à ?
À la profondeur de champ. Là, typiquement, si on fait un portrait, on peut avoir envie de mettre en valeur son sujet en utilisant la profondeur de champ et en particulier en ayant une très faible profondeur de champ qui va nous permettre d'obtenir un visage net et un arrière-plan tout à fait flou. Donc la zone de netteté dans l'image va être très faible, ça peut être de l'ordre de quelques millimètres. On va juste avoir les yeux qui vont être nets et quasiment tout le reste va être flou, ce qui fait que le sujet va être particulièrement bien mis en valeur, ce grâce à une faible profondeur de champ. Finalement, ce que permet cette faible profondeur de champ, c'est de bien différencier le premier plan de l'arrière-plan, le premier plan étant bien net et l'arrière-plan étant tout à fait flou.
Comment est-ce qu'en tant que photographe, on peut choisir de juxtaposer ou de jouer sur la profondeur du champ ?
Alors, ça dépend de la nature du sujet. Si le sujet, c'est par exemple une personne, par exemple pour un portrait, à ce moment-là, on va aller plus vers une faible profondeur de champ. À l'opposé, si on fait du paysage où là, c'est l'intégralité de ce qu'il y a dans le cadre qui va être le sujet, on va plus aller vers une juxtaposition des plans. Et ce qu'on peut rajouter par rapport au paysage et par rapport au plan, c'est qu'on a donc souvent un premier plan. Et on peut se demander pourquoi est-ce qu'on a un premier plan ? Pourquoi est-ce qu'on cherche à voir du feuillage en l'air ou des petites fleurs en bas ? Ça sert tout simplement à matérialiser le point de vue. C'est-à-dire que si on n'a pas ça, on a un peu l'impression de flotter. On ne sait pas trop d'où la photo a été prise. Une autre règle qu'on applique en rapport avec les plans quand on fait des prises de vue, c'est d'avoir de la profondeur dans la scène. C'est-à-dire ne pas prendre une photo, par exemple, face à un mur. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir une impression d'étouffement.
Et concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire pour composer sa photo ?
Concrètement, si on a un sujet à prendre devant un mur, on va tout simplement se décaler d'un côté ou de l'autre pour faire en sorte qu'il y ait une perspective.
Donc au lieu d'avoir le mur plat, on l'a qui rentre dans la photo.
C'est ça. Par défaut, on va plutôt chercher à avoir de la profondeur dans l'image.
En photo argentique, on avait le choix entre la couleur et le noir et blanc. Le numérique a plutôt privilégié la couleur, mais bon, c'est vrai qu'il y a aussi moyen assez facilement dans Photoshop de réobtenir une photo noir et blanc. Est-ce qu'il y a des règles concernant ce type de choix ?
Alors, plutôt que de parler de règles, on peut parler de petits conseils, de petites orientations, qui est que quand on a affaire à une scène très contrastée, souvent c'est des prises de vue qui se prêtent particulièrement bien au noir et blanc. C'est-à-dire qu'on va jouer avec les contrastes de lumière, tout simplement. Et en utilisant le noir et blanc, on va mettre en évidence ces contrastes de lumière en ne représentant pas les contrastes de couleur. Par ailleurs, jouer sur les contrastes de couleur, ça peut aussi être très intéressant. Donc il y a des tas de photos prises sur des marchés où on a des légumes de toutes les couleurs ou des pigments de toutes les couleurs. Ça donne des photos très intéressantes là sur le contraste de couleur. À l'opposé, si on cherche pas à mettre en évidence des contrastes, soit de lumière, soit de couleur, soit des deux, on peut tomber dans des images un petit peu pâles. Ça peut signifier une certaine tristesse. Alors ça peut être encore une fois volontaire.
Est-ce qu'il y a des règles par rapport aux heures à laquelle il faut faire des photos ? On dit souvent que le photographe doit travailler très tôt le matin, très tard le soir.
Oui, alors là, c'est plus des règles, pas forcément liées à la composition de l'image, mais plus à la méthodologie de travail. Déjà, souvent, il y a les repérages qui nous permettent de savoir quand la lumière va être vraiment intéressante pour le type de prise de vue qui nous intéresse. En particulier, on s'intéresse souvent aux lumières, soit du matin, soit du soir, qui sont des lumières rasantes, qui soulignent assez bien les contrastes dans les scènes et qui donnent aussi une couleur assez chaude. On évite la lumière de midi qui est assez écrasante et qui donne lieu à des images pas forcément très intéressantes sur le plan de la lumière. Et puis l'autre règle à peu près du même type, c'est tout simplement d'avoir plutôt le soleil dans le dos. Avoir le soleil dans le dos, ça va être très important d'une part, évidemment, pour éviter le contre-jour, mais ça va être aussi très intéressant pour obtenir un ciel bleu. On peut éviter le contre-jour et avoir quand même l'appareil dirigé plutôt vers le soleil, et dans ce cas-là, on va avoir un ciel blanc qui en général est moins intéressante qu'un ciel bleu.
Alors ces règles sont intéressantes effectivement parce qu'elles vont nous aider à faire de meilleures photos, mais c'est pas toujours évident, surtout dans une conversation qu'on prend comme ça en audio, de se faire son petit cinéma dans sa tête. Et tout à l'heure tu montrais une application extrêmement intéressante que vous êtes en train de réaliser ici à l'Université de Compiègne, qui va être distribuée je crois via l'association Rendez-vous Création. Tu peux nous en parler un petit peu ?
Oui, c'est exactement ça. C'est en fait un jeu pédagogique dans lequel on nous présente des règles esthétiques, celles dont on vient de parler là exactement. Et l'idée, c'est tout simplement de proposer aux joueurs de les appliquer sur quelques photos après avoir consulté la règle. Donc on dispose d'un viseur, on peut zoomer, dézoomer, incliner l'image à droite, à gauche, et on a un objectif relatif à la règle qu'on vient de voir. On a éventuellement quelques indices et on prend le cliché. En fonction du respect de la règle ou pas, on obtient une bonne note ou une mauvaise note. Si sur une règle donnée, on a obtenu un score suffisant, on passe à la règle suivante.
C'est très ludique, effectivement. Alors Nicolas, il y a une question qu'il faut absolument que je te pose. C'est un auditeur du podcast qui l'a posé, Hervé. Il se demande, est-ce qu'il y a moyen d'apprendre à placer ses émotions ressenties dans la photo ?
J'aurais plusieurs éléments de réponse. Le premier, ça serait de dire que, en commençant par une approche esthétique, on va pouvoir mettre en valeur le sujet et le mettre en valeur en fonction de ce qu'on ressent profondément. Donc on va pouvoir faire des choix au niveau de la mise en valeur esthétique qui vont être des choix conditionnés par nos sentiments.
Par exemple ?
Oui, par exemple, le fait d'incliner volontairement une image pour la dynamiser.
Donc si on ressent une émotion de dynamique, on va incliner l'image ?
Par exemple. Une autre approche, c'est pour ça que je disais que j'avais plusieurs éléments de réponse, c'est qu'on peut voir la photo comme finalement des images issues du réel. Ces images peuvent être tout simplement figuratives, on va prendre en photo directement ce qu'on voit, mais on peut aller aussi du côté de l'abstrait et se demander comment est-ce qu'on pourrait, donc là je ne sais pas si ça rejoint directement ce que souhaite faire ton auditeur, mais chercher à représenter visuellement ses émotions esthétiques. Il y a un exemple extrêmement simple que pas mal de gens ont pu expérimenter. Les sensations esthétiques qu'on peut ressentir le soir dans une ville où il y a beaucoup de lumière, on est dans une voiture, on voit des lumières passer dans tous les sens. On va se mettre sur le siège passager, on va donc être en mouvement dans la ville, on va faire une pause un petit peu longue. Vont se dessiner sur l'image des traits liés à des phares de voiture, liés à des immeubles, liés à l'éclairage urbain, etc. Il va y avoir des couleurs différentes. On va aller vers la photo abstraite et on va représenter une émotion esthétique qu'on a ressentie à ce moment-là.
Donc est-ce que ta réponse par rapport à la question qui était « est-ce que je peux apprendre des règles qui vont me permettre de mettre les émotions ?» Est-ce que ta réponse en fait elle est positive ?
Oui, la réponse elle est positive, c'est-à-dire qu'en mettant en valeur son sujet, on peut prendre chacune des règles et se demander est-ce que cette règle va dans le sens de mes émotions ou pas. Et puis ensuite, on peut aller au-delà du figuratif et se demander si en allant vers l'abstrait, il n'y a pas moyen de représenter visuellement ses émotions.
Tu me parlais tout à l'heure d'un travail personnel justement qui rejoint cette recherche de l'expression de l'émotion.
Oui, alors je fais depuis quelques années un petit travail personnel où justement je cherche à représenter visuellement mes émotions esthétiques. Donc si on cherche Nicolas Esposito dans Google, on tombe sur ma page perso.
Je mettrai le lien.
Voilà, de là on peut aller dans photo. Et dans photo, il y a une série qui s'appelle 2 secondes, qui correspond à des pauses longues qui sont faites soit le jour, soit la nuit, soit en environnement urbain, soit plutôt dans la campagne. Et dans tous les cas, j'ai cherché à non pas représenter ce que je voyais directement, mais ce que je ressentais. Et généralement, ça passe par des pauses longues et ça donne des résultats qui sont souvent avec des couleurs assez vives et avec des mouvements assez amples puisque ça correspond à des pauses longues.
Et pour quelqu'un qui veut suivre ce parcours, qui veut justement aller dans cette direction, comme c'est le cas d'Hervé qui se posait en fait la question, qu'est-ce que tu lui conseillerais comme première étape ?
Comme première étape, je conseillerais tout simplement de peut-être d'écouter ce podcast.
C'est toujours une bonne idée.
Et de voir déjà tout simplement ce que ça donne quand on utilise ce langage photographique que j'exprime donc avec mes mots personnellement et qui est donc à prendre sous cet angle-là, mais qui est aussi à prendre sous l'angle de notre culture européenne. Donc l'idée, c'est de tester les règles une par une, de voir comment est-ce qu'on peut les appliquer dans différents cas et de voir comment est-ce qu'on peut les prendre aussi à contre-pied.
Bien Nicolas, merci pour cette introduction rapide, ce survol rapide de l'esthétique qui nous permet effectivement de mieux nous situer.
Merci Benoît pour l'invitation.
Encore merci Nicolas pour ce sujet dense, mais mené je trouve de main de maître. Je rappelle qu'un complément visuel est disponible et le jeu dont Nicolas parle dans l'interview est maintenant en ligne sur le site de Rendez-vous Création. Flash de dernière minute, Nicolas propose de réaliser un podcast de critique des photos, donc critique par rapport aux règles d'esthétique qu'on vient de voir. Vous trouverez tous les renseignements pour participer sur www.rendezvouscreation.org. Troisième segment donc, vos commentaires. D'abord une réaction de Pierre BGT du blog Un an dans l'Empire du Milieu à l'interview de Pierre-Yves Dalnogard, l'épisode précédent. Il dit que cette interview lui a donné envie de ressortir ses bacs et son matériel argentique. C'est une réaction à laquelle je ne m'attendais pas, mais j'ai été très surpris de recevoir différents emails allant dans le même sens. Donc clairement, pour moi, ça montre l'intérêt d'ouvrir déclencheur à des personnes extérieures et de confronter comme ça les différentes expériences. D'autres commentaires reçus qui sont essentiellement liés à la mention de déclencheur dans l'ordinateur individuel, rubrique sur le web, du numéro de juillet-août. Donc merci à eux de faire la promotion de déclencheur. J'ai reçu suite à ça différents messages d'encouragement de Polo66, de Guy38, d'Iron Star, de Jean-Michel et de Ramdam. Merci, les messages d'encouragement me font toujours énormément de plaisir. Jean-Michel fait en même temps un commentaire sur le bruit d'obturateur que j'utilise pour séparer les différents segments. Il trouve son niveau trop élevé par rapport à la voix. C'est un point que j'ai réglé sur les épisodes les plus récents. Mais n'hésitez pas à faire d'autres commentaires, d'autres suggestions sur la prise de son. C'est un point que je découvre en même temps que je produis le podcast. Donc clairement, il y a un aspect un peu expérimental à certaines démarches. Pourtant, je cherche à m'améliorer. Par exemple, ce mois-ci, je me suis équipé d'un filtre que l'on place autour du micro et qui réduit assez considérablement les réflexions. Et je crois que ça améliore la qualité de l'enregistrement. Vous me direz ce que vous en pensez. Tant qu'on y est, vous constatez que je n'ai pas réintroduit de musique de fond sur cet épisode. J'ai également reçu un message d'encouragement de Y de Pote, merci, qui lui a trouvé déclencheur via Google. Et je dois dire, ça va faire 3 mois que je me bats pour que Google indexe déclencheur. Il y a eu différentes difficultés techniques. Ces problèmes sont résolus, donc maintenant, déclencheur est enfin dans l'index. Et enfin, ma réponse, comme promis il y a 2 épisodes, à la question d'Hervé. Donc vous souviendrez que la question était: peut-on apprendre à reproduire, traduire les émotions qu'on ressent devant un sujet dans l'image? Vous avez entendu la réponse de Pierre-Yves, vous avez entendu la réponse de Nicolas. Voici ma réponse personnelle. Clairement, je crois que oui. Une photo, une image peut faire passer un message, et donc par exemple le ressenti, une émotion devant un sujet. Et surtout, on peut apprendre à construire une photo, à construire une image pour faire passer le message. Pour moi, photographier, c'est très très proche du travail d'écriture. La démarche est la même. Et d'ailleurs, je suis surpris de constater que même produire un podcast est la même démarche. Tout d'abord, je formule l'idée, je réfléchis à ce que je veux dire, je raffine l'idée, parfois je la recherche, je vais chercher un peu complément d'information. Et puis j'utilise les différentes mécaniques de la langue, dans le cas où j'écris ou dans le cas où je prépare le podcast, pour exprimer l'idée. Donc je rédige des brouillons, je corrige, j'améliore, etc. Ainsi, petit à petit, je construis en fait l'expression qui me paraît la plus correcte possible de l'idée que je veux transcrire. Et pour moi, la photo, c'est exactement la même chose. Ou enfin, dans l'idéal, c'est vrai qu'il y a un côté de la photo qui presse bouton, il se passe quelque chose, on appuie, et puis voilà. Qui peut parfois avoir une charge émotionnelle très très forte. Le premier pas de ma fille a été pris comme ça, avec l'appareil quasiment à bout de bras, sans aucun réglage, sans rien. C'est une photo qui a une charge émotionnelle forte, mais c'est pas une photo qui dit grand chose. Dans la forme que je préfère, la photo est construite. Et donc, je commence par réfléchir là aussi à ce que je veux faire. Je prépare l'image, j'explore, je fais des essais. Puis pendant la photo, nouveau, c'est une suite d'actes techniques. Choisir, régler les focales, les éclairages, etc. Après la prise de vue, puis je termine, je peaufine l'image. Alors, je présente la démarche de façon technique, intellectuelle, et donc elle paraît un petit peu froide, peut-être. Ça n'est évidemment pas le cas en pratique. Au point de départ, donc, il y a une passion par rapport au message qu'on veut faire passer. Et donc forcément, il y a cet enthousiasme qui sous-tend toute la méthode. Clairement, pendant la phase d'apprentissage, on va se concentrer sur les aspects techniques. Mais au plus on acquiert ces règles, par exemple les règles dont Nicolas nous a parlé, eh bien en plus, ça devient des gestes tout à fait naturels. L'enthousiasme de construire l'image reprend très vite le dessus. Un point très important dans la démarche, c'est l'édition. C'est-à-dire ne pas hésiter à se remettre en cause, à regarder le résultat, à se dire, voilà, je voulais obtenir ça, est-ce que je l'ai vraiment obtenu? Comme un brouillon, on va biffer des phrases, des paragraphes entiers parce qu'on se rend compte qu'on les a mal exprimés. Et je répète, à côté de cette photo construite, il y a aussi la photo presse-bouton, un événement se passe, on vise ou on prend pas trop la peine de viser, on appuie sur le déclencheur, on obtient une photo. Mais alors, ce sont des photos qui sont beaucoup plus intimistes, ce sont des photos qui n'ont vraiment valeur que pour soi et pour le cercle proche parce que ce sont des souvenirs au lieu d'être des messages. Pour laisser un commentaire, pour faire une suggestion, pour faire une remarque ou pour laisser un message d'encouragement par rapport au podcast, vous connaissez l'adresse www.déclencheur.com. Les messages textes sont gratuits, une boîte vocale est également disponible et cette boîte vocale s'appuie sur les services de la société VoxUp qui, eux, sont payants. Donc en France, vous devez composer le 08 92 23 03 22 à 34 centimes d'euros la minute. On vous demandera de saisir le code service 8208. En Belgique, le 0902 88 128 à 74 centimes d'euros la minute. Même code service, 8208. En Suisse, le 0901 701 705 à 2,50 francs la minute. Même code service, 8208. Attention, vous devez confirmer votre commentaire avant de raccrocher. Écoutez donc bien attentivement les instructions. Il me reste à vous remercier de votre écoute. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez, si ce n'est déjà fait, vous abonner sur le site www.déclencheur.com. L'abonnement est complètement gratuit. S'abonner à un podcast, ça signifie simplement qu'on va recevoir les nouveaux épisodes au fur et à mesure de leur parution. Toutes les infos sont sur le site www.déclencheur.com. Nous sommes arrivés au terme de ce mini-cycle d'interviews. Le prochain épisode sera consacré à l'éclairage d'été, et donc en particulier cet accessoire très utile, le flash.